retrouver chaque semaine Arnaud Gagneux, responsable des archives municipales de Briançon sur les ondes de Fréquence Mistral, pour découvrir les trésors conservés aux archives.
Bonjour à tous et à toutes, nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Gagneux, responsable des archives de Briançon. Bonjour Arnaud.
Bonjour, alors aujourd'hui au programme, je vais vous parler un peu de l'assistance publique et surtout des enfants abandonnés, trouvés et ce qu'on appelle du coup des orphelins. Alors c'est pas très joyeux, mais ça permet, c'est des sources d'archives qui sont hyper intéressantes pour soit des recherches généalogiques, puisque des fois on peut, dans nos familles, si on monte nos arbres généalogiques, on peut se retrouver confronté à un blocage dû à un enfant abandonné. Et parfois, on peut retrouver les traces via les archives, mais aussi ça peut servir donc les archives sur l'assistance publique pour des recherches un peu plus poussées sur l'histoire sociale. Aux archives municipales de Briançon, on a quelques documents donc liés à l'assistance publique en général et sur les enfants abandonnés. Alors, en France, on va dire qu'il y a toujours existé, un lieu qui était réceptacle de des enfants abandonnés, donc souvent c'était un hospice ou souvent géré ou une œuvre religieuse. Donc souvent c'était soit géré civilement ou soit par des religieux. En tout cas jusqu'à la Révolution française, puisque ensuite à partir de la Révolution française, en fait là on va voir à peu près, on va voir les premières lois fondatrices de l'assistance publique et de la mise en place de l'assistance publique, mais via l'activité en fait de l'État ou de l'administration, puisque comme j'ai dit avant, c'était plutôt géré par des religieux. Là, c'est vraiment l'État qui va venir à intervenir. On a une première loi en 1793 qui va venir organiser dans chaque département l'assistance aux filles mères et aux enfants abandonnés. Donc dans chaque département se crée à la Révolution française. On va avoir une administration départementale qui va nous permettre du coup de clarifier la situation et surtout de s'occuper de ce problème-là, donc des enfants abandonnés. Et ensuite, aussi la même année, en 1793, on a le statut de l'enfant abandonné, la création du statut de pupille de la nation. Donc c'est un terme qu'on retrouve. Donc c'est un terme qu'on retrouve souvent, alors dans les actes de naissance ou de décès ou alors dans les registres, voilà. Et ensuite, au niveau de plus local, cette assistance publique va être confiée à ce qu'on appelle des bureaux de bienfaisance ou des organismes municipaux gérés civilement, donc des hospices civils, pour venir au secours des enfants. Mais je pourrais, il n'y a pas que les enfants, hein, ils viennent en secours aux pauvres, ce qu'on appelle aux indigents, ceux qui sont, on va dire, un peu handicapés. On a aussi tout ce qui est vieillard, une population globalement à risque. Et ensuite, on va voir, la période cruciale, ça va être le 19e siècle, puisque là, on va avoir c'est pas non plus le bon mot, mais on va avoir beaucoup de lois qui vont venir statuer sur l'assistance publique et clarifier aussi l'intervention de l'État vis-à-vis de ces institutions qui sont déjà en place, que ça soit des institutions privées, œuvres caritatives gérées par des religieux, ou les institutions publiques qui ont été mises en place à la Révolution française. Et on a un décret en 1811 qui va être un peu l'acte fondateur de l'assistance publique en France, puisque on va dans ce décret, l'État va, à partir de maintenant, va jouer un rôle majeur dans l'assistance aux enfants abandonnés. Parce qu'il y a à la fois une partie assistance et une partie aussi mesure de police. C'est-à-dire qu'on vient encadrer, on vient mettre des règles pour éviter tout problème d'ordre public, de trouble à l'ordre public. Donc, dans ce décret, on va avoir une mise en place d'une procédure. Donc, par exemple, on va venir anonymiser, on va protéger l'anonymat des parents ou de la mère qui abandonne. Ce décret va aussi permettre d'éviter toutes sortes des avortements, on va dire clandestins, des infanticides. On va venir aussi clarifier l'assistance, c'est-à-dire on va venir subvenir aux besoins de l'enfant Donc, on va avoir une mise en place d'une comptabilité, de choses comme ça. Et ce qui va en découler de ce décret, c'est que moins il y a d'enfants, on va dire, dans les rues, moins il y a de criminalité. Donc, du coup, l'ordre public est plus maintenu. Ensuite, la deuxième loi fondatrice, ça va être celle du 27 juin 1904. Voilà, on l'appelle la charte de l'assistance publique. Donc, on va avoir une définition des moyens de la procédure pour récupérer l'enfant abandonné par les parents biologiques, puisque ça, c'était pas quelque chose qui était clairement statué auparavant. Donc là, en fait, parfois, les parents, ils pouvaient faire une demande pour récupérer les enfants lorsque la situation financière était améliorée. Puisque généralement, en fait, il y avait une procédure de placement temporaire, mais elle aboutissait en fait finalement à un placement définitif, puisque la plupart des demandes de récupération d'enfants étaient rejetées. Et puis en fait, ensuite, on va avoir dans les services départementaux d'assistance publique, on va avoir une distinction entre les catégories d'enfants qui sont pris en charge. Donc on a des enfants qui sont trouvés, abandonnés, donc ceux-là, c'est une garde définitive. Et on a les pupilles de la nation, et on a aussi ce qu'on appelle du coup des enfants temporaires, qui sont placés temporairement. Et là, du coup, en fonction de chaque catégorie d'enfants, il va y avoir potentiellement des procédures qui sont différentes, et surtout, on va le remarquer dans les archives, puisque c'est surtout une histoire de comptabilité derrière, qu'est-ce qu'on leur attribue à ces enfants-là, en fonction de leur statut. C'est peut-être un enfant qui a tel statut est peut-être plus mieux accueilli, ou je sais pas. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais c'était ça. Ouais. En fait, au 19e siècle, on va avoir aussi au début de création de lois sur la protection de l'enfance. Et là, par exemple, en 1889, on a la loi Roussel qui vient instaurer les premières mesures de protection des enfants maltraités et moralement abandonnés et qui seront ensuite pris en charge par l'État. Voilà, donc après, il y a toute une série de lois, plutôt au XXe siècle, sur la protection de l'enfance, sur les violences faites aux enfants. Puis en fait, même au XIXe siècle, on a aussi les lois sur le travail des enfants. Donc aussi, on a une amélioration, on va dire, du statut du statut de l'enfance, de la protection de l'enfance. Et puis en 1964, pour finir, on a la création de ce qu'on appelle plus maintenant les DAS, là où étaient placés les enfants. Pour l'historique de la protection de l'enfance en France. Alors ça, c'est très rapide. Et puis pour revenir en fait aux archives à Briançon, nous avons des documents relatifs à ces lois d'assistance, et surtout on a des registres où sont répertoriés les enfants qui sont abandonnés. Et le plus ancien, il commence en 1838. Et je crois que le dernier doit se terminer juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, dans ces registres-là, on va retrouver évidemment le nom, alors plutôt le prénom des enfants, quelquefois le nom, lorsque l'abandon n'était pas anonyme. Puisque, alors, j'ai pas expliqué, mais en fait, il y a la mise dans les hospices ou dans les orphelinats, il y avait un tour dans lequel on venait placer les enfants. Donc, on pouvait, et en fait, c'était ensuite, les personnels de l'hospice ou de l'orphelinat tournaient chaque matin à aller vérifier le tour pour voir s'il n'y avait pas un enfant dedans. Et ça, il y en a, quelquefois, il y a certains bâtiments qui ont conservé ce tour-là. Alors, je sais qu'il y en a un, moi, je suis originaire de Mâcon, donc je sais qu'il y en a un à Mâcon qui a été conservé. En fait, on voit, ils ont bien placé l'enfant, mais ensuite, c'était un système de tourniquet. Et c'est ça, en fait, la procédure d'anonymat, c'est qu'on ne savait pas qui a donné. D'où le fait qu'on leur attribue en fait un prénom, mais on leur attribue ensuite les noms de famille. Alors ça, c'est une autre histoire aussi. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a raconté que ici à Briançon, lorsqu'on ne savait pas le nom de famille des parents biologiques, on leur attribue un nom de montagne. Donc c'est pour ça qu'il y a des Prorel, des Isoards. On leur attribuait des noms de montagne, de sommets. Pas forcément. Mais c'est comme ça qu'on leur a attribué un nom de famille. Donc dans ce registre, par exemple, on a un registre qui commence du coup en 1838, donc on va avoir le prénom, quelquefois le nom, et le lieu de l'abandon. et la commune, évidemment. Donc parfois, ils sont trouvés dans les bois, dans la rue. Là, par exemple, par contre, on a apparemment le... Alors, c'est pas noté, mais j'ai l'impression qu'on a le... on a le nom parfois des parents. Donc, et en fait, ce registre, il permettait surtout pour l'hospice, puisqu'à l'hospice civil de Briançon, donc qui était en, dans la vieille ville, ça permettait de tenir, en fait, de maintenir de la comptabilité, puisque ces enfants qui sont accueillis, qui sont recueillis plutôt, il va falloir leur subvenir à leurs besoins. Donc c'était aussi, en fait, il y a une partie de comptabilité pour savoir quelle était la somme qu'on leur avait assignée, en tout cas de somme de nourriture, de voilà, de choses comme ça. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que le registre, il couvre pas que la commune de Briançon, puisqu'on a des enfants qui sont recueillis, qui sont recueillis à Val-des-Prés, à Servières, à Villard-d'Arène, à Monnetier, à La Salle, à Montgenève, à Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre, La Grave. Tout à l'heure, j'ai vu l'Argentière, Valouise. Donc en fait, finalement, ce registre-là couvre finalement, on va dire, le Briançonnais dans le sens large. Mais ça enregistre pour moi, qui est un peu abîmé évidemment, donc il y aura peut-être l'objet d'une restauration. Ce qu'on peut dire sur les archives un peu de liées aux enfants abandonnés.
On sait où ils se trouvaient dans la vieille ville?
Le bâtiment de l'orphelinat, donc, qui était rattaché à l'hospice, il était au niveau de la maison du pape, donc en face anciennement l'ancienne bibliothèque. Et actuellement, je crois qu'il y a un restaurant qui s'appelle au pied de la Garou, qui est pas très loin, voilà. C'est à peu près dans cette zone-là.
Merci beaucoup.
Mais de rien.